Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'audio consacré au thème 1 du mois de juin. Alors je suis vraiment doublement heureuse de vous retrouver parce que on va parler des contes. Alors vraiment les contes, j'adore, j'adore ça. Oui, je voulais simplement commencer par m'excuser pour cette classe qui commence très tardivement comparée à d'habitude. Mais pour moi, alors là, c'est vraiment très très personnel. C'est le mois des fenaisons ici. Je ne sais pas si vous savez, mais on habite en montagne en fait. Et on a des animaux. On est très investis dans des associations en fait de gestion durable de l'espace du village, de l'environnement. Donc on a nos propres animaux, on a les animaux des associations. Donc on fait les fenaisons en juin. Ça prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et puis moi j'aime beaucoup prendre le temps de tester les exercices que je vous propose si je ne l'ai pas déjà fait. Parce que je trouve ça super important de savoir où on met les pieds, où je vous emmène, c'est le minimum. Et du coup, il m'a fallu trouver un jongler plus que d'habitude pour trouver le temps de faire cet enregistrement, de travailler ce thème avant de vous le proposer. Pareil pour les exercices. Et puis aussi juin, en fait, d'un autre côté, c'est l'anniversaire. C'est le mois d'anniversaire en fait de tous mes enfants. Donc voilà, c'est un mois vraiment très 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 chargé, donc je m'excuse, mais vous inquiétez pas, tout le contenu va sortir avant juillet. C'est juste que c'est un petit peu plus difficile pour moi, mais en tout cas, voilà, je suis vraiment contente de vous retrouver avec les contes, la thématique que je préfère. Et puis, peut-être que certaines l'ont lu, mais j'ai écrit un e-book hein, dont la thèse est le sujet en fait des contes et que ces contes sont initiatiques et que l'initiation c'est même un chemin universel, quasiment universel. Et quels que soient en fait les événements, les choix qu'on fait, bien particuliers, privés, personnels, etc. Eh bien, ils se ressentent plus ou moins tous. De façon archétypale, donc vraiment archétypalement parlant. Et je pose aussi la question dans cet e-book, en fait, de la naissance des contes, de leur apparition, et puis du pourquoi de leur longévité, et du fait qu'elles sont totalement internationales, qu'on retrouve des contes approchant dans une culture opposée géographiquement, etc. Et puis, ouais, de savoir pourquoi justement les contes peuvent se répandre comme ça, comment ils peuvent devenir un emblème, hein, comme le château de la Belle au Bois Dormant dans un parc d'attractions par exemple. Parce que, en fait, je vais vous donner la réponse. C'est ce que je crois, c'est qu'ils entrent en résonance justement avec les archétypes des initiations de la vie, des espèces de jalons comme ça archétypaux et qu'on entre tous en résonance avec leur contenu symbolique à un moment de notre vie. Alors, soit parce que on le vit justement en même temps, et alors là ça fait un gros boom en soi, ça devient en fait une synchronicité, hein. Ou alors parce que eh bien on l'a déjà vécu, et ça permet de comprendre ce qui s'est passé sur un autre niveau. De l'intégrer tout simplement, ou encore parce que du coup on est sur le point de le vivre bientôt et que le conte nous envoie comme ça une espèce de douche de clarté sur ce qu'on est sur le point d'entrer en fait. Voilà. Alors, les contes, c'est vraiment un domaine absolument très riche et incroyable, etc. Il y a énormément de personnes qui ont écrit là-dessus. Il y a les contes eux-mêmes qui sont absolument, je disais, emblématiques, hein, qui nous transportent. Et puis il y a justement tout le travail que l'on fait qui est basé sur les contes de Jamie Sams. Ce que j'aime beaucoup dans cet enseignement du mois de juin, c'est que la mère du clan du mois de juin, en fait, nous informe que dire la vérité, c'est pas simplement raconter des histoires, hein, même si elles sont pleines de sagesse, initiatiques, très importantes, qu'elles nous apportent la clarté, qu'elles nous apportent vraiment un savoir qui va au-delà de ce qu'on expérimente superficiellement dans nos relations au quotidien, dans nos vies au quotidien. Mais ce mois-ci, en fait, on apprend aussi qu'une femme sacrée est une femme spirituelle, un esprit en mouvement, une femme naturelle et pure dans ses actions, ses pensées, ses comportements et ses mots. On rejoint un petit peu ce qu'on nous avait déjà dit lors du mois dernier, en fait, par rapport au tirage que je vous avais proposé. Et je trouve ça vraiment magnifique, le terme esprit en mouvement. Donc vraiment quelque chose qui est incarné, mais qui agit, qui bouge. Et ça a une dimension vraiment de création. Et oui, il n'y a pas que la culture amérindienne, en fait, qui véhicule cette idée d'importance, de pureté dans l'action, dans les pensées, les comportements et les mots, comme je le disais. Il y a aussi, on va voir, la culture égyptienne et la culture toltèque, et bien d'autres encore, hein, mais on ne va pas pouvoir tout regarder. On va déjà insister sur les deux-là. Et justement, en fait, ces cultures insistent sur cette nécessité d'être dans la vérité et de dire la vérité, comme la mère de clan de la lune de juin nous l'explique. Alors vous connaissez très 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 certainement, j'en suis sûre, les quatre accords toltèques. Et ce premier accord, hein, puisqu'il est premier dans la liste, mais aussi premier d'importance, et qui dit que votre parole soit impeccable. Alors pour résumer très très rapidement, il s'agit de l'accord finalement le plus important, mais aussi le plus compliqué à suivre, parce qu'on peut être déconnecté, mais tellement déconnecté de notre bouche et de notre gorge, de nos mots en fait, et on parle souvent de façon automatique, superficielle, hein, voilà, entre le voisin, etc. On sait ce dont il faut parler, du beau temps, et aussi on va beaucoup parler en réaction à une émotion qui surgit en nous, donc de façon plutôt défensive. Ensuite, l'humain, je pense, aime en général impressionner l'autre. Et c'est un comportement tout à fait naturel, assez instinctif, hein, comme les animaux qui paraissent, qui aiment se grossir en fait pour paraître plus grand, plus imposant, que ce soit par exemple le chat, hein, qui va gonfler ses poils du dos, les oiseaux qui grossissent les plumes de leur gorge ou de leur coiffe, hein. Et puis même j'ai appris très très récemment que les mantes religieuses apprenaient très tôt en fait à se dresser pour en imposer quoi. Et l'humain, lui, va plutôt se grossir par le verbe, je suis sûre que vous avez plein d'exemples en tête, et progressivement comme ça se dériver de la vérité, tout simplement. Mais on voit bien, du coup, comme je le disais, qu'une telle attitude est instinctive, animale, et qu'elle est basée sur justement cette survie, et donc qui dit survie dit peur, peur de mourir, et donc qui est basée sur la peur. Et pour nous, ça peut être beaucoup d'autres peurs que celles de mourir, mais elles sont toutes liées finalement, hein, parce qu'il y a la peur de manquer, la peur du conflit, etc., etc. Mais voilà, le point de départ, ça reste la peur en général. Alors, nous, on a appris que nous sommes des esprits incarnés, venus d'une grande source d'amour, hein, venus de l'amour, et que tout notre challenge, en tout cas c'est une hypothèse, est d'incarner cette lumière, cette vérité, et non plus d'incarner la peur. Alors il n'y a pas du tout à culpabiliser si nous avons pu parler depuis un centre de peur, hein, parce que pour comprendre totalement quelque chose, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir expérimenté. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus juger les personnes qui sont en train de l'expérimenter. La parole impeccable, c'est aussi une parole qui ne juge pas, parce que on doit tous passer par le même cheminement et on doit tous passer par la même expérimentation, pas identique, identique, mais de nature archétypale identique. Et du coup, nous devons tous apprendre à intégrer que nous avons peur et nous parlons depuis la peur. Mais il est intéressant de voir aussi que ce qu'il se passe quand on parle du cœur, justement, quand on change et qu'on décide de parler depuis l'amour, depuis notre corps, eh bien, bien que ce soit vraiment quelque chose de très beau sur le papier, c'est en réalité un très très gros moment de vulnérabilité et d'inconfort qui fait surgir forcément quoi? Ben forcément des peurs. Donc même quand on décide de ne plus partir de la peur, de partir vraiment de l'amour, eh bien on risque de rebasculer dans la peur. C'est un piège sans fin. Donc c'est vraiment pour ça aussi que c'est si compliqué vraiment d'appliquer cet accord de parole impeccable. Parce que au lieu de se retrouver en chat qui grossit ses poils, qui essaye d'en imposer, tout d'un coup on va se retrouver en vulnérabilité, donc comme un petit oisillon sur le sol prêt à être mangé. Et même si on le sait, si on sait que parler depuis notre vérité nous fait rencontrer ces sensations-là, en fait, enfin, plutôt c'est si on est en accord, si on le sait que en parlant du cœur, on risque de faire survenir des peurs, si on le vit, eh bien on va savoir que c'est tout à fait normal, que tout le monde le vit aussi, et que à partir de là, on peut prendre le courage. Que n'importe comment, finalement, on va se retrouver confronté à ce genre de peur et de résistance. Alors, comme je vous le disais, c'est tout à fait normal et c'est un moment où il va falloir apprendre à prendre le courage justement de persévérer pour voir si quelque chose change dans notre vie, car en devenant aligné comme ça dans la vérité, dans nos mots, finalement nous expérimentons, nous approfondissons en fait l'expérience de la femme sacrée. Comme je vous le disais en introduction, la femme sacrée est une femme spirituelle, un esprit en mouvement, une femme naturelle et pure. Et ce n'est que justement en passant par l'inverse que l'on peut comprendre. C'est par exemple en expérimentant le chaud qu'on comprend le froid, ou l'inverse, et qu'il n'y a vraiment pas maintenant à cette place d'avoir compris que nous avons pu avoir des paroles qui jugent, des paroles qui étaient loin d'être impeccables, mais plutôt d'honorer le chemin qui nous a amenés jusqu'à nous en rendre compte, et ne pas juger notre passé, parce que du coup, on revient à la même place finalement. Alors, ce fameux accord, hein, que ta parole soit impeccable, qui ressemble finalement à ce que les Indiens appellent marcher sa parole, peut-être que vous connaissez peut-être plus, c'est une parole justement qui implique de s'aligner avec nos comportements et avec ce que l'on est finalement. Une parole impeccable, comme je vous le disais, c'est une parole qui n'agresse pas, qui ne critique pas, qui ne juge pas, et que cela soit les autres ou soi-même. Les mots déclenchent des émotions en nous, des énergies, avec ce que j'appelle les mots cailloux, par exemple. Alors, avec un mot caillou, je fais mal à l'autre. Mot caillou, c'est un terme que j'ai inventé en fait pour que mes enfants comprennent de façon très 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 évidente et très facilement que les mots sont lourds et qu'ils peuvent faire aussi mal que si on nous envoyait un caillou sur notre corps. Et donc si j'envoie un mot caillou, l'autre va avoir mal. Cela va créer en lui une émotion négative qu'il va me renvoyer sous forme d'énergie et qui va me faire mal en retour. Donc on disait également, on a pu parler, ou j'ai pu évoquer, parce que je trouve ça très très important, du fait qu'on n'est pas responsable des émotions que l'autre vit, parce qu'il a son passé, ses blessures, son point de vue, etc. Et c'est vrai qu'un mot peut évoquer des blessures dont on n'avait pas l'intention. Mais là vraiment on est dans le mot caillou, dans le mot qui fait mal, donc même si c'est une personne qui n'a pas de blessure, il peut quand même surgir voilà, des émotions, même si ce n'était pas notre intention première, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Donc en retour, on reçoit des énergies négatives. Et puis, eh bien, si vous êtes de ceux qui pensent la réalité de la loi d'attraction, c'est-à-dire que, en plus, si on lance un caillou, on ne peut récupérer que des cailloux en retour. Donc, si on lance du poison, on va se retrouver avec du venin. Et c'est pour ça qu'on dit que certaines personnes ont des langues de vipère. Les rumeurs empoisonnent, les mots peuvent empoisonner. Et à la place, on peut changer tout ça et choisir des mots qui seront plutôt comme des baumes, hein, parce que s'il y a des venins, il y a aussi des mots qui guérissent et qui font du bien et qui stimulent des émotions positives. Mais au-delà de ça, des émotions, il y a aussi l'énergie. Donc les mots ont une énergie. Et c'est ce que nous révèlent les expériences d'Emoto, si vous ne connaissez pas. Emoto est un chercheur asiatique qui a testé le pouvoir des mots dans plusieurs expériences. Dans une première série d'expériences, il l'a testé sur l'eau, donc en disant régulièrement des mots baumes, les cristaux de glace qui se sont formés à partir de l'eau à laquelle il parlait avaient une structure de glace plus belle que les cristaux qui sont obtenus à partir de l'eau à laquelle il s'adressait en mots cailloux. Ensuite, il a fait des expériences avec du riz cuit dans plusieurs pots, des pots où il était décrit par, pareil, hein, des mots baumes, hein, comme je les appelle, et des autres avec des mots cailloux. Et ce sont seulement les pots des mots cailloux qui en fait ont moisi, alors que les autres non. Et c'est quelque chose qu'on peut faire facilement à la maison, très très facilement, vous pourrez le voir dans cette page en proposition d'exercice. Et c'est très sympa à faire avec les enfants d'ailleurs. Alors il n'y a pas que le riz ou que l'eau, etc. Il y a des expériences qui ont été menées sur les plantes, c'est-à-dire que les personnes qui vont dans leur jardin et qui parlent aux plantes, etc., vont avoir plus de chances d'avoir des plantes qui s'épanouissent mieux, plus jolies, en meilleure santé, etc., etc. En tout cas, dans le cas de l'eau et du riz, il n'y a pas une incidence émotionnelle du mot, puisque le riz et l'eau n'ont pas d'émotion. Et donc cela ne peut être que dans l'énergie qui se dégage du mot lui-même, ou alors peut-être, ça c'est encore une hypothèse qui n'est pas vérifiée, de l'humain qui va le dire. Donc en surgissant, en disant le mot, l'humain s'aligne peut-être avec l'énergie du mot et diffuse comme ça lui-même une énergie. Donc est-ce l'énergie du mot, est-ce l'énergie de l'homme? Pour le moment, on n'est pas exactement fixé. Dans les deux cas, en tout cas, on se retrouve quand même avec une certaine magie du mot quand il est prononcé. Il y a aussi une expérience que l'on peut mener en ne prononçant pas le mot, mais en simplement attachant, en écrivant le mot sur le pot. Mais là aussi, il y a une influence parce que même si le mot n'est pas dit, en tant qu'être humain, on le lit, on se met dans une ambiance de ce mot, et là aussi, il peut y avoir cette intention. Alors, c'est ce dont parle énormément une autre culture, hein, la magie du mot, qui est l'Égypte. Vous savez certainement que les hiéroglyphes ont été considérés par cette culture comme sacrés, ainsi que le scribe, qui était considéré comme un magicien finalement. Et ce n'est pas la seule culture, d'ailleurs, c'est également ce qui se passe pour les runes, qui sont considérées comme sacrées aussi. Mais il y a surtout ce mythe égyptien qui concerne Isis, qui a cherché à connaître le vrai nom du dieu Ra, ou Ré. Et ce n'est pas vraiment pour avoir plus de pouvoir que la déesse Isis a fait ça, mais parce que Ra, eh bien, a, dans ce mythe, est comme l'archétype du roi dans les contes de fées populaires. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, je trouve, parce que là, je me rends compte que Ra et roi, c'est très très proche, mais je ne sais pas du tout s'il y a un lien étymologique entre eux. En tout cas, j'irai vérifier. Bref, dans ce mythe, Ra se fait vieux, car Isis voit sa bave, la bave du dieu Ra, tomber par terre. Et c'est vrai que lorsqu'on n'est plus capable de retenir sa bave, et ben voilà, on n'est plus vraiment non plus capable de régner sur un royaume, de régner carrément sur un univers. Et on retrouve très 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 souvent cet archétype de roi incapable, devenu trop vieux dans les contes. Et ces rois sont totalement inactifs, il ne se passe plus rien dans le royaume. Et si le royaume représente notre être, nos vies, nos cheminements, etc., c'est vraiment la stagnation de l'être humain, on stagne. Et c'est ce qu'il se passe avec Ra, et comme avec les autres rois, pour aller de l'avant, pour continuer à évoluer, il va falloir quoi? Il va falloir un prince, il va falloir du sang neuf, quelque chose qui va vivifier le royaume. Mais attention, un prince qui devra passer par un cheminement initiatique, parce que du coup, il ne peut y avoir qu'un roi plein de sagesse, et cette sagesse doit être acquise par le prince avant de pouvoir régner. Et du coup, il va passer par plein d'épreuves comme ça, ou connaître des aventures amoureuses, parce que l'amour aussi est initiatique, par des conflits, etc., etc. Et le prince, dans le mythe d'Isis, eh bien, ce sera Horus, Horus qui est le fils d'Isis, et c'est pour ça qu'on appelle Ra des fois le dieu Horus Ra ou Horus Re, qu'il partage tous les deux, ces deux dieux Horus et Ra, les mêmes attributs, notamment les mêmes yeux, on a l'œil de Ra, l'œil de Re, etc. Et en tout cas, Horus Ra, c'est le passage d'un roi vieux à du sang neuf, comme ça, et le renouvellement du royaume. Mais comme c'est le fils d'Isis, eh ben on a souvent dit, ou on peut lire assez souvent de la part des auteurs, que ce qu'elle a fait finalement était manipulatoire, parce que c'était comme un besoin de pouvoir pour elle-même en fait, ou pour son fils. Or, si on regarde vraiment le fait qu'on retrouve cet archétype du roi vieux, du roi jeune, c'est tout simplement parce que c'était nécessaire pour sauver le royaume, pour sauver l'être. Et d'ailleurs, dans d'autres mythes qui concernent toujours Isis, on peut voir que Horus sera initié de son côté. Alors il sera mordu par un serpent, comme ça se passe souvent dans les initiations chamaniques ou les initiations des hommes médecine, les hommes médecine amérindiens qui se font mordre par le serpent auquel on inocule le venin par d'autres façons. Et du coup, Horus devra en plus subir de nombreuses épreuves et puis combattre d'autres dieux, le dieu Sobek et puis le dieu Seth qui a tué son père. Bref, Isis n'offre pas sur un plateau d'argent comme ça le pouvoir à son fils, hein, pas du tout. Elle l'utilise pas non plus pour elle-même parce que c'est pas elle qui va se mettre à la place de roi. Ben voilà, non plus. Simplement, elle va activer la régénération du royaume, sa renaissance, si on veut, tout comme le font les déesses initiatrices. Mais ce qui est vraiment très intéressant dans notre thématique, c'est que ce pouvoir dont on parle, le pouvoir du roi, le pouvoir de régénération, est acquis par la connaissance du nom, de l'essence même du dieu Ra. Ce nom est magique, il est dit comme tel, c'est le nom magique. Et du coup, le mot en lui-même peut par extension être magique. Il est capable de créer un royaume, de le faire renaître, ou il est capable aussi de le détruire. Il est capable même de créer plus encore, de créer un monde, de créer un univers. parce que, comme vous le savez sans doute, la Bible commence son mythe de la création par « et au départ était le Verbe ». C'est par le mot, c'est par le son que tout commence. C'est très puissant. Et quand je dis que le mot crée un royaume, c'est-à-dire que le royaume, je l'associe avec l'être, et c'est totalement vrai parce que le mot crée notre être, il nous façonne. Je vais vous donner un exemple. Si on répète 100 fois à un enfant, ou même parfois une seule fois, il suffit d'une fois, qu'on dise à un enfant qu'il est timide, ou inverse, qu'il est totalement incontrôlable, qu'il a le diable au corps, eh bien il va adhérer à ce qu'on va lui dire. Au bout d'un moment, que ça peut être la première fois, ça peut être la centième fois, il va adhérer, il va donner son accord inconscient, et il va intégrer, c'est-à-dire qu'il va créer la croyance qu'il est timide ou qu'il est incontrôlable, et agir à partir de cette croyance. Parce qu'une croyance, on ne peut pas faire quelque chose inverse. C'est vraiment une intégration profonde, c'est très 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 puissant, et c'est pour ça que c'est terriblement difficile de reforger, de créer de nouvelles croyances, d'en laisser tomber et d'en adopter d'autres. Parce que du coup, notre être va forcément adapter nos comportements pour aller dans le sens de ses croyances. Un autre exemple, toujours avec les enfants, c'est quand on leur dit « Attention, ne fais pas ça, tu vas tomber. » Et c'est, allez, 90 fois sur 100, on augmente le risque de chute de l'enfant. Il a des études qui l'ont montré, si vous dites à un enfant « Attention, tu vas tomber », il a plus de risques de chuter que si on lui donne d'autres mots d'encouragement. Allez, concentre-toi, ou alors garde bien ton équilibre. Et j'ai même le souvenir, en fait, de ma propre mère qui courait après mes enfants en leur disant ne cours pas, ne cours pas, fais attention, ça glisse, tu vas tomber, et qui a elle-même glissé. Alors, c'est peut-être un hasard, hein, bien entendu, mais c'est aussi une belle illustration en fait de ce que la croyance peut faire parce que elle disait si je cours égale je glisse je tombe c'est ça hein, c'était la croyance c'est ce qu'elle disait aux enfants arrêtez si vous courez vous allez tomber et puisqu'elle-même était en train de courir elle a glissé alors en fait si je m'en souviens autant c'est parce que c'était une belle synchronicité parce qu'à l'époque j'étudiais la CNV, qui est la communication non violente, et ça m'a vraiment, vraiment marqué. Alors, elle s'est pas fait mal, et moi j'étais morte de rire, parce que du coup, elle a agi à partir d'une croyance, et c'était peut-être un hasard, c'était. Voilà, peut-être, mais le fait est que peut-être qu'elle a aussi adapté son comportement pour justifier ce qu'elle disait. Reprenons, parenthèse fermée. Alors, pour moi, le conte est magique. On le voit. Hein. C'est la mère aussi du mois de juin qui nous le dit. On peut voir avec les exemples que je vous ai donnés que le mot, que le nom est magique. Et en ce qui concerne les hiéroglyphes, pardon, et les runes, c'est l'alphabet lui-même qui est magique. Le son apparaît comme le souffle divin. L'esprit en mouvement cette fois. Et ces sons, on pourrait imaginer en fait qu'ils s'assemblent comme un fil qui finit par créer une trame, un tissu, un vêtement qui nous englobe, qui nous protège, ou alors qui va nous gratter et nous piquer et qui va nous rendre la vie infernale. Pour une vie agréable, nous devons donc, en partant de cette métaphore, choisir des mots qui ne grattent pas. Nous devons bannir certains mots totalement de notre vocabulaire et prendre conscience de la raison pour laquelle on a employé à la base ce genre de mots. Est-ce qu'on arrive à voir quelle peur peut se cacher derrière ces mots? Et quelle intention peut se cacher derrière les mots des autres aussi? Parce que l'autre peut aussi chercher à utiliser des mots confortables, doux, guérisseurs, des mots qui nous font du bien, mais dont la mission est de prendre le contrôle de nos comportements. C'est ce qu'on voit surtout dans les publicités. les publicitaires savent également quels mots placer en plus des images, en plus des sons. Qu'est-ce qu'il faut dire pour déclencher un comportement d'achat? Et aussi, ça peut être des personnes qui, parce qu'ils nous donnent des jolis mots, on dit les beaux parleurs, nous font accepter des comportements inacceptables. Je pense là au terrible exemple en fait des femmes frappées qui, parce qu'elles sont amoureuses ou parce qu'elles ont vraiment très très peur de mourir, hein, donnent plus de pouvoir aux mots d'excuse en fait qu'au coup. Et c'est en cela que l'enseignement transmis par Jimmy Sams est vraiment vraiment puissant, parce que ici on nous dit pas seulement qu'il faut avoir une parole pure, une parole impeccable, mais qu'il faut que cette parole soit aussi en accord avec la vérité. Ce que les Égyptiens appellent aussi la ma'at, le concept de vérité, qu'on explore sous toutes les coutures, hein, véritablement à travers les contes de Jimmy Sams. Et il y aurait donc plusieurs niveaux d'énergie comme ça dans le mot. D'abord, comme on l'a vu, la magie du son en lui-même, la magie du mot en lui-même. Mais aussi, comme on vient de le voir, l'intention dans laquelle ces mots sont prononcés. Et on retrouve cette idée dans la notion de prière ou de rituel qui fait que si on comprend ce qu'on dit, les prières que l'on dit, on va décupler leur pouvoir plutôt que de simplement dire automatiquement par habitude les mots qui perdent, on dit qu'ils perdent leur sens, ils perdent leur pouvoir, leur magie. La magie se libère par le son. Que l'on en soit conscient ou non, c'est vrai, donc même si on le dit automatiquement, il va se produire quelque chose, mais en fait, c'est plutôt qu'elle va atteindre tout son potentiel en l'employant avec conscience, avec intention. Finalement, on n'est plus dans marche ta parole ou que ta parole soit impeccable, dire la vérité, mais pour être encore plus clair, vraiment, on pourrait dire que ce qu'on cherche, c'est un mot pur dans une intention pure. Donc les deux niveaux ensemble. Et avec ça, on peut comprendre qu'il peut y avoir plein de combinaisons possibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir un mot caillou dans une intention d'amour. Et que du coup, ce sera pas du tout le mot impact qu'un mot d'amour, un mot doux, dans une intention nuisible, qui peut aussi exister. Et on arrive alors au sommet ultime, hein, du venin lorsque les mots sont poison dans une intention poison. Donc là, on est vraiment dans le bas du bas de l'échelle, hein. On est vraiment dans le poison total. Donc, c'est d'autant plus compliqué justement d'avoir une parole impeccable, de marcher sa parole, parce que il nous faut donc comme ça une espèce de surveillance multiple et complexe pour comprendre le pouvoir des mots qu'on utilise, à la fois le mot lui-même et l'intention. Donc voilà, c'est se diviser, c'est encore plus difficile que ce qu'on peut imaginer. Et puis du coup, forcément, je ne peux pas m'empêcher de penser aux multiples dimensions des textes traditionnels comme les textes bibliques, les fameuses paraboles, comme on dit. Et il est vrai que les écoles de mystère, comme celle de Pythagore, le grec par exemple, parlaient du fait que les textes employés pouvaient être compris sur plusieurs niveaux, sur trois niveaux notamment. Il y a la compréhension littérale, où le mot décrit bien la chose. Donc, par exemple, quand on parle dans une parabole de vin, eh ben, c'est bien de vin dont on veut parler. Il y a le deuxième niveau de compréhension symbolique, c'est-à-dire que le vin représente en fait le sang, donc le sang qui coule en nous. Et le troisième niveau, le niveau mystique, hein, je crois, qui s'appelle comme ça. Qui nous dit que le sang représente l'esprit, donc en fait que le vin va représenter l'esprit. Et alors du coup, une parabole qui est celle de l'eau changée en vin, pardon, oui, de l'eau changée en vin, eh ben ça va pas du tout représenter la même chose au niveau littéral, où on a vraiment de l'eau qui se transforme, un miracle, ou plutôt En troisième niveau, de transformer la matière, un élément de matière naturelle, en esprit. Donc insuffler le divin dans la matière. C'est pas du tout la même chose. L'intention n'est pas du tout la même. Et si les mystiques religieux l'ont fait certainement très intentionnellement, de cacher en fait, de cacher le sens mystique dans des paraboles, hein, c'est notamment parce qu'ils savaient que justement chaque personne avait une intention différente dans son but de rechercher le savoir. Et peut-être que vous vous demandez, donc on part vraiment très loin, si c'est peut-être la même chose qui se produit dans les contes. Est-ce qu'il y a un savoir intentionnellement caché dans ces contes-là? Alors, je pense que par exemple, dans les contes de Jamie Sams, hein, elle les a retravaillés à partir de matériaux bruts. Donc c'est certainement voulu, mais en même temps, il y a toujours un chapitre qui nous explique vraiment ce qu'il y a derrière, qui nous explique d'autres champs de possibles qu'elle ne va pas après travailler dans le conte. Mais elle dit bien qu'elle est quand même partie voilà, de matière brute, hein, de contes bruts qui ne sont pas livrés tels quels, qui sont des fois séparés en deux, parfois au contraire d'autres qui sont ajoutés ensemble. Mais dans cette matière brute-là, ou dans les contes qu'on dit populaires, européens, etc., qu'est-ce qu'il en est? Si on part du principe, comme je vous le disais, que les contes sont nés à partir de rêves ou de méditations, c'est donc l'inconscient humain qui a parlé. Dans ce cas, c'est un langage symbolique, parce que c'est vraiment le langage de l'inconscient, le langage du rêve. C'est le langage qu'utilise vraiment notre inconscient pour communiquer avec nous, le langage symbolique. Et là, on est déjà au niveau 2 de compréhension. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de Belle au bois dormant qui a vraiment existé, qui a vraiment dormi en réalité là sur Terre pendant 100 ans. Non, non, non. Mais symboliquement, il y a bien notre part féminine en nous, notre féminin sacré qui a été en veille pendant énormément de temps. Et c'est à se demander, mais oui, mais de quelle autre façon est-ce qu'on pourrait recevoir un message encore plus efficacement que celui-là? Ainsi, en recherchant derrière les contes, le sens, les intentions cachées, qu'elles soient celles d'un auteur qui par intellect a pu cacher des savoirs qu'il connaissait, ou la sagesse de l'inconscient, on touche à ce niveau-là sacré. C'est ce que nous faisons dans cet atelier finalement, mois après mois, et c'est pour cela hein, que le livre Les 13 mères est sous-titré du terme que c'est la voie initiatique du féminin amérindien, parce que du coup, ces contes-là nous permettent d'accéder au féminin sacré, au sacré. Alors, dans cette intention-là d'accéder au féminin sacré, je vais vous citer d'autres travaux, notamment le travail inestimable de Clara Pinkola Estes. Je veux parler du très fameux Femme qui court avec les loups. Et ce livre, c'est un vrai best-seller, tout comme le livre de Jamie Sams, hein, Les 13 mères originelles, qui dépense toutes les ventes au sujet du féminin sacré. Et on peut justement se dire que c'est parce qu'ils ont tous les deux comme base les contes et qu'universellement on comprend ce langage symbolique. Alors, sachez pour information, et c'est vraiment pour information, je ne cherche absolument pas à dénigrer le travail de Clara Pinkola Estes, qui est absolument un merveilleux travail basé, mais qui est basé en fait sur les écrits de Marie-Louise von Franz, qui a été en fait une proche collaboratrice de Carl Gustav Jung. Et en fait, Estes est une psychanalyste jungienne à la base. Elle le dit hein, même dans son livre. Et en fait, si je vous le dis, c'est simplement parce que Marie-Louise von Franz, en fait, mérite d'être vraiment plus connue, ainsi que tous ses ouvrages, hein, et notamment ses interprétations du conte, de différents contes, parce que on peut voir, en fait, si on lit les deux versions concernant les mêmes contes, les versions d'Estès et de Marie-Louise von Franz, que Estès a pris certaines choses, les a approfondies, elle en a laissé d'autres de côté. Et elle a ce travail de conteuse inestimable, hein, que Marie-Louise von Franz n'a pas, elle est plutôt académique, mais en tout cas ça permet vraiment d'avoir quelque chose, une autre façon de voir les mêmes contes qui vont vraiment dans le même sens, hein, dans les deux cas, mais vraiment d'une façon un peu plus scientifique dans le cas de Marie-Louise von Franz, qui nous aide vraiment à avoir un petit peu plus de clarté aussi, parce que vraiment Femme qui court avec les loups est vraiment très très inspirant, mais il y a beaucoup beaucoup de choses et l'auteur s'étend vraiment des fois dans des cheminements, et on a des fois un petit peu du mal à prendre de la distance et à voir globalement ce que le conte voulait signifier, ce qui n'est pas du tout le cas pour Von Franz en fait. Et sinon, d'une façon très certainement moins symphonique, moins jolie, il y a ma petite contribution personnelle, c'est-à-dire que j'écris, comme je vous le disais, un e-book en fait qui s'appelle La quête initiatique de l'héroïne et qui tente en fait de faire un petit rapprochement entre la réalité, c'est-à-dire mon témoignage personnel, et les contes. Et le conte initiatique de la jeune fille sans main. Et en fait, j'essaye comme ça de dégager une certaine universalité de l'initiation féminine qui arrive, c'est mon point de vue, toujours à se frayer un chemin dans nos vies, dans notre époque, mais qui peut utiliser d'autres médias pour arriver à ses fins. Je pense aussi au livre La sagesse cachée des contes de Grimm de Marcus Cranburg, Bourg, qui révèle lui carrément le troisième niveau de certains contes, de quelques contes. Donc ça parle vraiment là de réincarnation, d'évolution des humains, d'Atlantis. Bref, on va très loin. Et donc c'est un livre qui est plutôt adapté à ceux et celles qui ont vraiment l'esprit très très ouvert sur ce genre d'informations. Il y a aussi le livre de Jodorowsky qui s'appelle La sagesse des contes. Alors, je ne le connais pas, ce livre, mais je connais l'auteur qui est un auteur plutôt très masculin dans sa façon d'aborder les choses. Et je n'aime pas toujours les liens constants qu'il fait à la sexualité, même dans son travail sur la voix des tarots. Donc c'est pas forcément quelque chose auquel j'adhère en fait. C'est un petit peu finalement le combat Freud contre Jung. Mais si vous préférez la façon de voir les choses de Freud, vous apprécierez peut-être grandement ce livre. N'hésitez pas à faire un petit retour si jamais eh bien vous craquez et que décider de le lire. Alors voilà, on a beaucoup beaucoup parlé de la magie des mots. Je vous remercie intensément d'être présente pour ce travail sur le féminin, sur rechercher avoir une parole impeccable. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio qui est l'un des plus longs audios que j'ai enregistré depuis le début de notre atelier sur le féminin sacré. Des mères de la vérité. Alors, je vous remercie, je vous dis à très vite pour la suite, pour le thème numéro 2, mais avant cela, vous vous doutez bien que je vais vous faire des petites propositions d'exercices. Je vous invite vraiment à les faire pour comprendre où vous en êtes face à l'utilisation des mots. J'espère que cet audio vous a plu. Et que voilà, vous êtes tout autant fan de contes que moi. Et je vous dis à très 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 bientôt pour la suite. À très vite.